temps. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous expliquer, de nous donner la lumière sur ta parole. Et Seigneur, souvent les paraboles ont été interprétées dans tous les sens. Donne-nous, Seigneur, de comprendre le sens profond de ta parole qui vient du Père des cieux, Seigneur. Aide-nous, franchement, Seigneur, pour la vivre, non pas seulement pour la comprendre. La mettre en pratique, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre berger. C'est toi qui nous demande de t'écouter. Et sois béni. Amen. Alors, j'ai l'autre fois présenté, faites bien attention, je ne vais pas revenir dessus, la parabole de la semence. La semence avec qui est semée sur le chemin, en pierré, dans les buissons épineux, dans le bon terrain. La semence qui est volée aussi par les oiseaux. La semence, c'était la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. C'est la révélation donnée par Dieu en Jésus-Christ. Alors, le semeur, c'est Dieu le Père. Le bon terrain, c'est les chrétiens qui ont un cœur honnête et persévérant et qui gardent la parole de Christ, de Jésus. C'est clairement expliqué dans Luc. Ça, je ne peux pas revenir sur tout ça. Ça a été dit. J'ai fait des feuilles, j'essaie de les faire convenablement. Je ferai des photocopies de tout ça pour ceux qui veulent. Parce qu'il y en a peut-être qui voudront passer des heures là-dessus. C'est très important. Alors, le bon terrain, c'est clair, c'est quelqu'un qui accepte la sanctification par la parole, parce que la parole est la vérité. La parole de Jésus est la vérité. Et Jean 17, verset 17. Les terrains difficiles, les terrains contraires, sont soumis à une sanction. Ceux qui n'ont pas reçu la parole, mais qui ont fait semblant, dans Matthieu 7, 21, arrière de moi, parce que vous m'avez dit Seigneur, 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 donc ce sont des personnes qui ont apparemment été chrétiennes. Et quand Jésus est là, et de retour, eh bien Jésus ne le veut pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. La sanction de Jésus ne vient pas parce qu'il ne nous aime pas. Elle vient parce que nous n'avons pas aimé sa parole. Et pas aimé la mettre en pratique. C'est différent. Dieu est toujours miséricordieux. C'est plutôt nous, parfois, qui manquons de sens, de responsabilité et d'écoute envers Dieu. Donc le chrétien doit savoir, s'il s'affiche comme chrétien, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit dans la parole. Ok ? Jésus l'a dit, celui qui demeure dans ma parole demeure en moi. Il demeure dans mon amour. Tout ça, c'est des enseignements de base. Donc les terrains difficiles et les terrains contraires, ce sont des gens qui affichent une façade, même avec des versets, même avec la Bible en main, ou sans la Bible, avec des croix, là, ou des croix sur les murs, des croix sur les toits. Non, c'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est ce que nous avons dans le cœur, c'est l'amour de la volonté du Père. Dans Jean chapitre 4, verset 24, ma volonté, hein, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc, je ne vais pas là-dedans, c'est des choses déjà entendues. Donc, je vous ai expliqué une deuxième chose. C'est que il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu et qui ne comprennent rien, à l'époque de Jésus comme maintenant. Pourquoi ? Parce que Dieu a posé une sanction sur certaines personnes, surtout sur Israël. Dans Ésaïe chapitre 6, nous voyons que Dieu envoie Ésaïe dire à son peuple, voici, je vais te boucher les oreilles, je vais fermer les yeux. Ok ? Ésaïe pose la question, jusqu'à quand ? Et jusqu'à quand, vous le trouvez dans Romains chapitre 11, verset 25, jusqu'au moment où la totalité des païens, donc des autres nations, des autres religions, ont entendu l'évangile, alors Israël revient vers Jésus. C'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant. En Israël, il y a réellement une ouverture à l'évangile. Partout, la TV et la télévision n'en parlent pas, mais c'est la réalité. Le figuier que Jésus avait annoncé, le figuier reverdit. Donc Jésus n'est pas loin. Toutes ces prophéties-là sur l'endurcissement du cœur d'Israël, volontaire, en tuant les prophètes, en refusant les paroles des prophètes, est suivi d'une sanction où c'est Dieu qui endurcit le cœur, un peu comme avec Pharaon, qui reçoit visite d'Aaron et de Moïse, et puis il y a 9 miracles où il pourrait accepter la direction de Dieu, et puis après il y en a 4, mais c'est clair, c'est Dieu qui ferme le cœur des pharaons. Et bien c'est arrivé, et méfions-nous que ça puisse arriver à nous d'entendre la parole de Dieu, de tellement jouer avec qu'à un moment donné Dieu ferme la porte et le cœur est fermé à jamais. Ça, il faut faire attention à ça. On ne peut pas se moquer de Dieu impunément quand on entend sa parole. Dieu ne donne pas la perle au pourceau. Il donne sa parole à qui veut l'aimer, l'entendre, la mettre en pratique. Il est patient, il a énormément de patience, et il fait des signes dans notre vie à plusieurs reprises. Il nous visite, il fait des signes, mais à un moment donné, à force d'avoir eu des signes, si on, je parle platement, si on crache dans la soupe, il n'y a plus de soupe. Donc il faut faire attention, ce préambule est vraiment très fort. Il y a eu, et il y a un texte dans Matthieu, hein, regardez Matthieu 13, verset 15, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Quelqu'un peut entendre la parole de Dieu et se convertir? Hein? Alors que Dieu ne veut pas. Vous vous rendez compte? Parce que c'est Dieu qui décide de la conversion. C'est Dieu qui décide de donner la grâce tel ou tel jour. C'est Dieu qui sauve. C'est pas l'homme qui se sauve par soi-même. Me v'là! Je force la porte du ciel et je rentre. Rambo! Ça n'existe pas avec Dieu, ça. C'est une conception très basse de Dieu. Ça n'existe pas avec Dieu. Mais celui, verset 16, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Celui qui veut entendre, celui qui veut voir l'amour de Dieu à travers Christ, eh bien pratiquement, il a le bonheur de voir de plus en plus ses yeux s'ouvrir, ses oreilles s'ouvrir. Ça va? C'est très important, c'est un appel solennel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un appel durable. Ce sont des lignes, des choses que j'ai dit, que j'ai traitées déjà dimanche passé, mais là j'ajoute quelque chose, c'est un appel durable pour toutes les églises à partir de la fin du 1er siècle jusqu'au retour de Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 2, vous allez voir que les mêmes paroles sont données. Donc Jésus, quand il a parlé à Israël, après il parle par l'apôtre Jean, quand il est prisonnier à l'île de Patmos, en résidence surveillée. Les représentants, les messagers, angelus, les anges, c'est des êtres humains, hein, en fait, des responsables qui viennent auprès de Jean, ils vont recevoir une révélation, un enseignement. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, tous ces versets-là sont valables pour nous. Parce que les sept églises, c'est l'image de toutes nos églises sur la terre. Chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Hein? C'est la même chose, c'est l'équivalent de ce que Dieu, que Jésus a dit en Israël aux Juifs. C'est l'équivalent. Mais c'est l'équivalent pour un Israël qui s'est prolongé à travers les nations, un Israël de la grâce, et qui est constitué en église un peu partout, dans l'Asie mineure, même au fond de l'Inde, hein, avec Thomas, un peu partout, en Éthiopie, avec l'eunuque d'Éthiopie, un peu partout il y a des églises, très rapidement au 1er siècle. Eh bien, ça s'adresse à toutes les églises encore aujourd'hui. Et toutes les églises ont le même message. Vous pouvez regarder au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est la deuxième église, c'est Smyrne, la première c'était Éphèse. La troisième église, c'est celle de Pergame. Hein? l'église de Pergame, au verset 17. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je me suis trompé? Oui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque fois, ça se répète. Et c'est pas à ton église, c'est aux églises, hein, au pluriel. C'est pas l'église protestante ou l'église catholique ou l'église orthodoxe ou des, hein, les adventistes, etc. Ou les charismatiques ou les pentecôtistes. C'est aux églises. Tout quiconque se réclame de Jésus et de sa parole doit écouter ce que le Saint-Esprit a voulu dire. Et pour qu'on sache ce que le Saint-Esprit a voulu dire, il faut aller dans Matthieu 13. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont vu, qui ont entendu, c'est là. Hein? Vous vous rendez compte que ce qui est dit là, ça nous réfère à Matthieu 13. C'est extrêmement important de comprendre ça, que la parole est ce qui permet de réveiller une église et de la recentrer sur Jésus. Alors, si vous voyez au verset 29, une autre église, de nouveau, l'église de Thyatire, au verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque fois au pluriel. Donc, il y a des églises locales, un peu partout, disséminées, il y en a déjà des milliers, très rapidement, et l'Esprit Saint veut parler à toutes les églises. Naturellement, est-ce que les églises veulent entendre? C'est la même chose que au temps de Jésus, avec les paraboles. Vous comprenez que c'est toujours la même situation. Et au chapitre 3, verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ça, c'est pour l'église de Sardes. Ensuite, verset 7, pour l'église de Philadelphie. C'est au verset 11. Verset 13 plutôt. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourtant, c'est une église où on a gardé avec persévérance la parole de Dieu. Regardez au verset 10. Tu as gardé la parole en persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc cette église est trouvée fidèle et pourtant Dieu lui dit n'oublie pas d'écouter le Saint-Esprit et d'avoir des oreilles spirituelles, des yeux spirituels pour comprendre ce que Jésus veut. C'est pour ça que dans Éphésiens au chapitre 1, Paul dit, il prie pour que l'Esprit de gloire, l'Esprit Saint, illumine les yeux du cœur des chrétiens d'Éphèse. Éphèse, ben c'était la première église, au chapitre 2, comme par hasard. Donc c'est le problème de tous les chrétiens. On a laissé s'installer de la boue sur le pare-brise. Et au verset 22, pour l'église de Laodicée, l'église de Ratamou, mais qui est bien, confortable, hein? Confortable. Elle croit qu'elle est arrivée à quelque chose alors qu'elle n'est nulle part. Jésus est même derrière la porte. Jésus est derrière la porte, il n'est même plus dans l'église. Mais cette église croit que Jésus est dans l'église. On peut se berner d'illusions. Et voilà ce qu'il dit au verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours, toujours, l'œuvre de l'Esprit Saint est là pour rappeler ce que Jésus a enseigné. L'Esprit Saint me glorifiera, il vous annoncera les paroles que je vous ai dites. Jean chapitre 14, chapitre 16. C'est l'œuvre fondamentale de l'Esprit Saint, c'est de nous recentrer sur la parole de Dieu, sur l'enseignement de Jésus, sur la personne de Jésus. C'est un appel durable pour toutes les églises jusqu'au retour de Jésus. Donc c'est durable pour nous aussi. Donc maintenant, on va aborder la deuxième Matthieu 13, on va aborder la deuxième parabole. Donc je n'ai pas été dans les détails de la parabole parce que, bon, on en a déjà parlé. Et puis, il faut la lire, évidemment. Il faut la lire d'abord. La deuxième parabole, Matthieu 13, verset 24. Il s'agit aussi, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ben, la bonne semence ici, les amis, la bonne semence, c'est plus la parole de Dieu. On ne peut pas faire une transposition d'une à l'autre comme ça dans les paraboles. Il y a une progression, il y a une stratégie de révélation dans la parole de Jésus, du Saint-Esprit, une progression de la révélation pour dévoiler le mystère, dévoiler l'enseignement que Dieu donne. Et ici, donc la bonne semence du verset 24, vous la retrouvez au verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, ici, cette fois-ci, ce n'est plus la parole de Dieu proclamée par Jésus. C'est les chrétiens qui gardent la parole, qui la vivent, et qui sont la bonne semence. C'est les chrétiens qui sont travaillés par le Saint-Esprit et la parole, qui sont la bonne semence pour le monde. C'est extrêmement important. Ça nous désigne dans la mesure où on est fidèle à Jésus et à sa parole et au Saint-Esprit. Ça nous désigne et ça nous encourage à une responsabilité dans le monde vis-à-vis des autres. Et ça montre aussi que Dieu peut nous bénir, être toujours avec nous, en toutes circonstances, jour et nuit. Ça, c'est cette bonne semence dans le cœur honnête et persévérant qui a gardé la parole vivante. Cette bonne semence, elle fait un effet incroyable dans Romains, au chapitre 6, chapitre 10, verset 6 et suivant, il est mis ceci. La parole est tout près de ton cœur. Tout près de ton cœur. Si tu la confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est la parole qui tient ton cœur. C'est la parole qui tient tes affections, qui tient tes choix, qui te dirige. Romains chapitre 10, verset 6 et suivant. Cette parole-là, elle est apportée aux autres parce que mon cœur en déborde. Parce que cette parole est sur mon cœur. Elle n'est pas là dans la tête. Parce que la parole là dans la tête qui ne descend pas là, Jésus n'a pas besoin. Celle qui arrête là, il n'y en a pas besoin. C'est celle-là qui touche notre cœur et qui touche nos choix profonds de nos vies. Alors, il est fort important de se rendre compte que dans ces chrétiens qui sont dans le monde, il y a quelque chose qui se passe. C'est pendant qu'ils dormaient, au verset 25, « Pendant que Jean dormait, son ennemi vint, sema de livré parmi le blé s'en alla. » Donc, il se peut que les chrétiens bien disposés dorment. Et rappelez-vous, dans l'épître aux Corinthiens, Paul dit ceci, « Ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Les morts, c'est les incroyants. « Mais toi qui dors, qui te comportes comme les incroyants, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Ça veut dire que tu as acquis une attitude, un comportement, et tu ressembles aux gens du monde. Hein? Et donc, il faut faire attention. Pendant que les gens dormaient, les personnes qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, qui sont enfants de Dieu, peuvent s'assoupir et rester dans leur godasse, je ne vais pas dire autrement, et ne plus travailler pour le Seigneur, ne plus avoir de zèle pour le Seigneur, se laisser aller et se dégonfler. Et pour combien de temps, on n'en sait rien. Ça, c'est chacun a son parcours. Moi, j'ai connu ça aussi. Hein. On prend des autres chemins, hein. c'est clair. Hein. Mais ce qu'il y a, pendant ce temps-là, quand on n'est plus vigilant, quand on n'est plus attaché à la parole, qu'on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, eh bien, l'ennemi sème de livrer. Regardez au verset 25, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, Satan donc, sema de livrer parmi le blé, s'en alla. » Alors, on a l'impression, tiens, tout d'un coup, oh, je vais redevenir chrétien, je vais m'y remettre, là, etc. On a l'impression de pousser, de grandir. Mais tout d'un coup, je ne sais pas si vous êtes fils de cultivateur, mais moi je suis, j'ai un champ en bio, là, eh bien, quand l'ivraie commence à pousser et dépasser le blé, ben, on ne voit plus le blé. Les moissonneuses-batteuses ne veulent même pas venir le faucher. Tellement c'est compliqué de faire la récolte. Alors, c'est l'idée que si on s'est endormi trop longtemps, l'ennemi a pris une longueur d'avance incroyable sur nous. Et par rapport à tout ce qu'on aurait pu faire pour le Seigneur pendant des années, on n'a rien fait. On ne rattrapera pas le temps perdu. Ce qu'on aurait pu faire pour le Seigneur pendant 10 ou 15 ans et qu'on a fait, on a perdu son temps à autre chose, on ne le rattrapera pas. Livré pendant ce temps-là, poussé. Satan a fait son œuvre. Parce que lui, il n'arrête pas. Il est ennemi de Christ, ennemi de la foi, ennemi de la parole. Donc, Satan s'attaque à l'œuvre de Christ. Il s'attaque à l'œuvre des chrétiens nés de nouveau, qui sont dans le Saint-Esprit. Et il est encore plus facile quand le chrétien se laisse aller et vit charnellement, tout d'un coup, n'a plus de zèle, ne prie plus, ne lit plus la parole de Dieu et vit sur le pilotage automatique. Ok ? Et je vous le dis franchement, il y a de quoi pleurer. Moi, j'ai passé des années de ma vie à être lamentablement sur le pilotage automatique ou dans des illusions qui n'en valaient pas la peine. Pour celui qui est un chrétien, même s'il dort, Dieu l'aime, il l'a choisi, il ne lui retire pas son salut. Il veut le réveiller, c'est tout. Il veut le remettre en route pour son service. Il veut le faire grandir. C'est pour ça que la parabole ici, verset 24 à 30, c'est une parabole où le blé pousse malgré l'ivré. Mais pour l'ivré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour l'ivré? L'ivré qui pousse, hein, vous avez vu au verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se mit d'ivré parmi le blé, s'en alla. Donc dans toute l'immense chrétienté du monde, Satan attaque. Chaque fois que les chrétiens ne sont pas dans la parole et la prière, ils ne sont pas dans l'amour de Christ réellement, Satan sème la pagaille. Et il grandit. Il donne l'impression d'avoir le dessus. Et regardez bien, cet ivré-là, c'est quoi? Du verset 25, on le revoit au verset 38. Le champ, elle monte, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens vraiment qui ont accepté Jésus dans leur vie. Livrés, ce sont les fils de malin. Et livrés ressemblent étrangement au blé. Moi, je vous le dis, quand on est dans un champ, si on ne s'y connaît pas, on croirait que tout ça, c'est du blé. Pour ceux qui ne sont pas réellement nés dans la culture, ils ne peuvent pas comprendre. Mais je vous le dis, ça ressemble étrangement au blé. Donc, les fils du malin peuvent ressembler étrangement et se donner l'apparence d'être des chrétiens. Rappelez-vous que Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, « Le bon berger connaît ses brebis, les brebis connaissent sa voix. » Mais attention, il y a des loups déguisés en brebis qui vont s'introduire dans le troupeau. Et combien de fois on voit dans l'épître de Pierre, dans les actes des apôtres, etc., tous les apôtres dénoncent les faux docteurs, les faux enseignants, les antéchrists, hein, première épître de Jean. Donc tout ça, je l'ai mis dans des notes. Je pense que ce n'est pas... Il faudrait une semaine d'études pour ça, pour faire tout ça. Mais moi, je vous donne les grandes lignes. Il y a toujours eu, depuis l'apparition du christianisme, très rapidement, jusqu'au retour de Jésus, du vrai et du faux mélangés. À nous de savoir ce qu'on est. Ce qu'on veut, ce qu'on est. C'est pas seulement ce qu'on veut. Ce qu'on est, c'est-à-dire, il faut vraiment avoir donné sa vie à Jésus. Parce que je veux être chrétien, mais je ne sais pas ce que Jésus a fait pour moi, je ne comprends pas, etc. On ne peut pas toger, hein. Il faut que ça soit clair. Donc, il faut vouloir et puis être. Donc il y a une grâce à recevoir de Jésus. La grâce du salut. Donc il faut faire attention. En Matthieu, le terme royaume des cieux, on ne le trouve que dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des juifs chrétiens en Palestine. Des juifs devenus chrétiens. Et ces juifs-là, Jésus leur expose la réalité spirituelle qui les guette. Qui les guette jusqu'à son retour. La parabole appelle à une foi persévérante et victorieuse en Jésus. Et s'ils retombent dans la religiosité, dans la loi, dans toutes sortes de comportements du passé, ils ne sont livrés. Ils ne sont pas des vrais chrétiens. Alors, Continuons. Il est impossible de démêler pour nous le blé et l'ivraie, les vrais enfants de Dieu et les faux. Il y a eu pendant des siècles des pogroms en Russie, l'Inquisition, et on a fait la chasse aux sorcières, on a fait la chasse aux hérétiques, on a fait la chasse aux croyants, aux vrais croyants ou aux faux croyants, peu importe. Tout ça, ça relève d'un esprit mauvais, parce que Jésus a toujours dit, on n'arrache rien. C'est moi qui reviendrai avec mes anges et qui vais trier le blé et l'ivraie. Donc, il n'est pas fait appel par Jésus à la violence dans l'histoire du christianisme. Il n'est pas fait appel au jugement. Donc, dans toute l'histoire de la chrétienté, depuis 20 siècles, et peut-être encore un demi-siècle ou un siècle, jusqu'au retour de Jésus, ou peut-être quelques jours, pratiquement, ni jugement, ni violence sur ce qui est le blé ou l'ivraie. Nous devons avoir responsabilité d'être en Jésus-Christ et pas de violence. Il faut aimer son prochain, il faut bénir ceux qui ne sont pas les mêmes que nous, il faut les avancer vers eux pour leur apporter la grâce de Christ. C'est ça le vrai enfant de Dieu. C'est tout ça que vous voyez dans Matthieu chapitre 5 à 7. C'est tout le comportement du vrai chrétien vis-à-vis de ceux qui sont livrés. Ok ? Alors, maintenant, il y a une troisième parabole, Matthieu 13, verset 31. Matthieu 13, verset 31. Il leur propose une autre parabole. C'est la troisième parabole, il y en a beaucoup. Une autre parabole, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. » Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte... Bon appétit, là-bas. Merci. C'est l'heure du repas. Au revoir, un bon dimanche. Alors, c'est la plus petite de toutes les semences. Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, versets 31 à 32. C'est une parabole très courte. Je l'ai toujours considérée jusqu'à peu, comme l'image d'un arc, c'est l'église, c'est les chrétiens, etc. Les oiseaux, c'est les chrétiens. Plus ça s'agrandit, plus il y a de vie dans l'arbre. L'arbre étant le Christ. Eh bien, c'est faux, cette interprétation. Il a fallu que je me remette en question. C'est complètement faux. Quand on étudie tous les textes de Matthieu, et tous les enseignements, ça n'a rien à voir. Donc on peut se faire des idées sur un texte pendant autant d'années et se faire secouer. Moi, je dis franchement, le chrétien étudie la parole de Dieu et tout d'un coup il se dit, mais je me suis trompé jusque ce jour-là. Même moi je le reconnais, il m'est arrivé de m'égarer longtemps sur certains textes. Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas Dieu, moi. C'est Dieu qui doit m'expliquer. Et quand je ne sais pas, mais je rencontre d'autres chrétiens. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rencontrer des chrétiens autre part. Et moi, c'est par quelqu'un qui est d'origine juive, qui est devenu chrétien, que j'ai entendu une autre interprétation de ce texte. Alors, le grain de sénévé est minuscule, il donne un arbre. L'image représente l'extension de l'évangile. À partir de Jésus, rien de rien, qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth, rien de bon, comme disaient les judéens, les pharisiens. Eh bien, pratiquement, un arbre. Oui, c'est l'extension de l'évangile. Arrivé à sa stature d'arbre, les oiseaux viennent se mettre dedans. Oui, mais les oiseaux, c'est quoi? Regardons Matthieu 13, verset 4. N'oublions pas ce qu'on a lu avant. Matthieu 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc les oiseaux, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vole la parole de Dieu. Ah oui, et c'est où l'explication? Au verset 19. Au verset 19, les amis. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Donc, l'arbre, la chrétienté, qui s'étend, et il vient plein de gens, des fils du malin, s'agglutiner dans l'arbre et voler la parole de Dieu. Dans la chrétienté qui s'est développée, oui, jusqu'à Constantin, il y avait 8 millions de chrétiens. Et sur un décret de Constantin, il oblige toutes les troupes, tout le monde à être baptisé. D'office, on vient chrétien parce qu'on est baptisé. Imaginez qu'ici, il y a de l'eau, c'est une grande piscine, on fait rentrer les troupes, et il y en a un au-dessus, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pif, et paf, et paf. Et puis on a baptisé les gosses, tout le reste. Et voilà tous les oiseaux qui sont dans l'arbre. Ce n'est pas des gens convertis, c'est des gens qui veulent être chrétiens parce que l'empereur l'a dit, parce qu'on a peur de ne pas faire ce que l'empereur dit. Voilà les oiseaux dans l'arbre. Au moment où l'arbre est envahi, c'est avec Constantin, la religion officielle chrétienne, qui n'est pas chrétienne. Elle est sociologiquement devenue chrétienne, et c'est tout, et elle n'a que l'apparence du christianisme. Les oiseaux viennent voler, et il faut faire attention, ils envahissent l'arbre. Donc l'image du grain de sénévé, qui devient un arbre, c'est l'image de la chrétienté qui est soumise à une invasion d'oiseaux voleurs. Les oiseaux voleurs, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas cru en Christ, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, et qui portent le nom de chrétien parce que le responsable de Rome, qu'on appellera 3 siècles plus tard le pape, le responsable, l'évêque de Rome, et l'empereur ont décidé qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils avaient été baptisés. Or, le baptême ne sauve pas. Vous savez très bien, dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. » Donc, les gens qui rentrent dans le christianisme à partir de Constantin, et déjà peut-être avant, sans avoir la foi, sont des voleurs, des oiseaux voleurs. Alors, que faire? C'est une prophétie, ces versets-là. Matthieu 13, verset 31-32. C'est une prophétie et ça met en garde les chrétiens. Cette prophétie s'est réalisée. Vous savez qu'Origène a prétendu, en fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qu'on appelle père de l'Église, a prétendu que les prophéties n'avaient pas un contenu historique. Qu'elles n'étaient qu'allégoriques. Eh bien, les amis, celui-là, il aura des comptes à rendre. Et vous savez pourquoi dans Thessaloniciens, la première de Thessaloniciens, chapitre 5, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. Ça va ensemble. Si vous négligez la signification des prophéties, vous négligez ce que l'Esprit Saint veut vous dire. C'est pour ça que j'insiste ici, très fort, réveillons-nous, attention, d'avoir des idées toutes faites sur la Bible et de ne pas lire, de ne pas chercher, de ne pas apprendre. Alors, le monde a envahi l'Église de Jésus-Christ par le baptême de multitude. Par le baptême de la multitude, des gens se sont crus chrétiens et ont eu le droit de rentrer dans l'Église, d'être évêque, d'être prince-évêque, d'être seigneur, avec des armées, en même temps qu'évêque ou archevêque, de manier l'épée et de manier la croix. Pauvres indiens aux États-Unis et africains. Oui, voilà l'église de Constantin qui va partout, et en Gaule, et partout, avec les légions romaines et les prédicateurs qui suivaient. Les gens tremblaient tellement devant Rome, que Rome massacrait. Et derrière, il y avait les fidèles représentants de la religion chrétienne romanisés, c'est-à-dire les oiseaux dans l'arbre. Il y a eu, à toute époque, des vrais chrétiens, mais il y a eu beaucoup de faux chrétiens. L'invasion des oiseaux, c'est l'invasion des fils du malin. Et elle constitue l'affirmation de l'apostasie agissante. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Quand Paul écrit dans 2e Thessaloniciens quelque chose, il est tout de même dans les années 55-60. C'est pas loin par rapport à la résurrection de Jésus. Et c'est déjà là. Quand vous regardez tous les autres épîtres, c'est la même chose. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Vous imaginez ce que ça veut dire?
C'est quoi,
chose, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant. Lève-la les oiseaux dans l'arbre. L'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, etc., etc. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité ? Si je comprends bien, Matthieu 7, 21, quand Jésus va nous recevoir et qui dit à certains, tu m'as dit Seigneur, Seigneur, mais rire de moi, tu as vécu dans l'iniquité, tu n'as pas fait volonté de mon Père. C'est clair? L'iniquité qui est dévoilée ici dans la 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7, c'est le refus de faire volonté de Dieu. On veut bien voir l'étiquette de chrétien, mais taratata. Pour le reste, alors je donne des informations, quelques informations historiques. J'ai été peiné, je pleurais en écoutant le récit des chrétiens protestants du Luberon, c'est en Provence, dans des villages et des petites villes qui ont été massacrés par le comte de Provence. Massacrés jusqu'au dernier, enfermer les femmes dans des maisons, mettre le feu aux quatre coins, tabasser, couper en morceaux les hommes. Hein? Déporter les enfants et tout. On a fait ça en Vendée, on a fait ça dans les Cévennes, on a fait ça ici à Metz. La Moselle était rouge de sang. Quand il y a eu Saint-Barthélemy à Paris, il ne faut pas oublier que toutes les villes y sont passées le même jour. C'était voulu. C'est comme un carnage qu'il y a eu dans le Rwanda, si vous voulez, à plus grande échelle. Vous voyez que les chrétiens de la multitude ne sont pas contents des chrétiens spirituels qui ont la parole de Dieu. Vous voyez que les chrétiens qui se disent chrétiens qui ne le sont pas veulent dominer. Eh bien ça, Paul l'avait dit, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 29. Galates chapitre 4, verset 29. De même, qu'alors celui qui était né selon la chair, donc humain, avec le péché d'Adam, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. On est au début du christianisme, hein? On est au début du christianisme, alors maintenant, imaginez. Galates, chapitre 4, verset 29. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair, donc qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu le pardon de Christ à la croix, qui ne vit pas dans le Saint-Esprit et la parole, celui-là persécute celui qui était né selon l'Esprit, c'est-à-dire celui qui veut vivre réellement la parole de Christ, dans la foi et l'Esprit Saint. C'est pas clair tout ça? C'est pour ça. Il me faut du temps. Vous voyez bien. J'ai passé des heures dans la Bible, et il y a encore des choses que je découvre maintenant, des choses, et puis j'ouvre mes oreilles quand je circule. Quand c'est quelqu'un d'avisé dans la parole de Dieu, je l'écoute. Avisé. Pas n'importe quel sortilège qu'on me dirait. Alors, l'apostasie est venue comment? Je donne des exemples. Après le 1er siècle, sur des îles du Nil, on a commencé à voir apparaître des ermites et des moines. Mais c'est exclu dans l'Évangile. C'est exclu. C'est une dichotomie entre le corps et l'esprit qui est venue de la pensée, de la philosophie grecque. C'est exclu. Dans Colossiens, c'est mis clairement qu'il ne faut pas faire ça. À Constantinople, rapidement, on a eu des icônes et des statues. Très rapidement. Alors que dans l'Est, dans le pays kurde, il y avait des chrétiens qui ne voulaient pas les statues et les icônes. Eh bien, Constantinople a envoyé des armées pour les dévaster, pour dévaster des milliers d'églises à l'Est, sur la Syrie et sur le pays kurde. Et vous savez comment à Constantinople on les appelait? Les pauliciens. Ben oui, parce qu'ils lisaient l'évangile, mais aussi les écrits de Paul, et ils étaient baptisés, comme chez les évangéliques maintenant, après la conversion, arrivé à un certain âge. Et ils ne voulaient plus de statues et d'icônes, et d'images, et de graffitis, et des mosaïques avec des images dans les églises. Eh bien, on a été les rasés. C'est pas ça? Le chrétien né de la chair, qui persécute celui qui est né de l'esprit. Ignace d'Antioche, 105, c'est en Syrie. Il dit que là, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'église. Pourtant, Jésus n'a jamais dit ça. Si vous êtes réunis à deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous. Eh bien, Ignace d'Antioche, c'est un des fondements de toutes les grandes institutions, orthodoxes, catholiques, etc., même certaines protestantes. C'est une hérésie. Parce que là où est le chrétien né de nouveau, avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, il y a l'Église. C'est une hérésie. Origine d'Alexandrie. C'est autocastré. Parce que heureux ceux qui sont eunuques pour le royaume des cieux, pensant bien faire, clac. Il a encouragé toute cette vague où on a mis de côté le mariage et on a prôné le célibat. Il a enclenché cette idée qu'on était vraiment consacré à Dieu si on ne se mariait pas, si on n'avait pas de relation sexuelle. Mais vous voyez bien, l'actualité nous rattrape. Celui qui fait l'ange fait la bête. Il n'y a pas de doute. Dieu n'a pas voulu qu'on néglige le mariage, qu'on néglige le corps qu'on a, et on est fait pour être homme et femme jusqu'au moment où Jésus revient. Donc cette idée qui est venue par Origène et d'autres, qui a permis aussi d'avoir des ermites et des moines, ça y est, on a commencé, parce qu'on a méprisé le corps, on a élevé l'âme, et courez toujours, hein, qui fait l'ange fait la bête. Courez toujours, c'est que l'apparence. Hein. Alors Origène a dit que les prophéties étaient sans contenu. Ça, c'est un dogme enseigné, aujourd'hui encore, dans toutes les grandes églises officielles qui baptisent des enfants tout petits. Ça fait partie des dogmes de la catéchèse pour enfants. J'étais prêtre, n'oubliez pas. Tout ça, je l'ai vu. Jean Chrysostome a rejeté publiquement et par des écrits les Juifs. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas eu de l'antisémitisme? Arius, un évêque de Syrie, a décrété que Jésus était une créature de Dieu et qu'il avait créé les hommes, comme chez les témoins de Jéhovah. Arius, au deuxième siècle, ça a duré deux siècles. Et il est arrivé à avoir l'appui des officiels pour aller massacrer les églises où on considérait que Jésus était à la fois homme et Dieu. Il a eu des armées du pouvoir de Constantinople et autres. Arius, l'arianisme. Et il en est resté quelque chose de cet arianisme, un poison dilué dans tout le Moyen-Orient. Il y a eu des tribus qui se disaient chrétiennes, mais sans être nés de nouveau. Vous voyez les oiseaux qui volent la parole de Dieu. Et une certaine Khadija qui était chrétienne à cette mode-là, cette façon, a reçu un jour un jeune homme qu'elle a engagé pour conduire ses caravanes et c'est devenu le prophète de l'islam. C'est elle qui lui a transmis ça. Et où elle l'a-t-elle reçu? Arius. Toutes les fausses doctrines. Vous voyez que les fausses doctrines envahissent l'arbre. Les oiseaux, le malin, volent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on subit les conséquences. Aujourd'hui, on subit les conséquences de cette invasion dans l'arbre par les fils du malin. Ce n'empêche que nous avons autorité par la foi. Ils seront jugés et condamnés. Nous serons avec le Seigneur. malgré 21 siècles de chrétienté controversée, où la parole a été malmenée, malgré cela, Satan n'aura pas la victoire. L'évangile n'a pas été détruit. L'évangile n'a pas été annihilé par les faux enseignants, par les faux docteurs.
La Bible est toujours là.
La Bible est toujours là. Il y a toujours des gens qui lisent la Bible, il y a toujours des gens qui aiment la parole et qui veulent la connaître. Cela est bien la preuve de ce que Jésus, que Dieu avait dit dans Amos au chapitre 8, je donnerai la faim et la disette, non pas de l'eau et du pain, mais la soif d'entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, la soif d'entendre et de la manger. Voilà, ce sera des beaux jeunes gens, de belles jeunes filles à travers toutes les nations qui auront soif. Et oui, il ne faut pas désespérer, il y a aujourd'hui plein de gens qui ont soif de Dieu. Et dans Ecclésias au chapitre 3, Dieu a mis dans le cœur de l'homme un désir d'éternité. On n'effacera pas ça, même si le diable agit pour tromper. Dieu est toujours au volant de l'engin qu'il conduit. Même si le diable se bat dans le coffre à l'arrière. Vous savez que cette histoire de la chrétienté avec l'apostasie, même Pierre a été tenté. À un moment donné, Pierre a été traité par Jésus de arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes, parce qu'il refusait le salut par la croix. Il refusait le salut par la croix rédemptrice de Jésus. Et vous savez que dans la première épître de Jean, chapitre 2 et 3, que les antéchrists sont sortis du milieu de nous. Vous savez pourquoi les antéchrists ? Ils nient que Jésus est le Christ, le Messie, que la croix sauve l'homme. Ils nient que la croix est rédemptrice. C'est déjà mis dans la première épître de Jean, chapitre 2 et chapitre 3. Eh bien, l'apôtre Pierre s'est fait traiter de Satan, arrière Satan. Il s'est fait traiter de cailloux, de petits cailloux. Hein? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, c'est cailloux. Tu es cailloux, et sur cette pierre, Pétra, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. Et Pierre n'était qu'un cailloux. Il a été remis à sa place par le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, « Attention Pierre !» Et à tous ses copains, les apôtres, Satan est venu me trouver pour vous cribler comme le froment, vous écraser. Donc si Satan est venu trouver Jésus, il vient encore le trouver aujourd'hui, ce Satan, pour cribler les chrétiens de ce monde. Les passer à la meule. Et c'est Jésus qui nous garde, si nous restons tout près de lui. C'est évident, il faut faire attention, nous avons la possibilité d'une vie chrétienne en Christ, en Jésus. Si nous écartons de Jésus, de la vie de la parole, de la vie de la prière, c'est la vallée des larmes. La fois prochaine, j'aborderai les autres paraboles. Il y a bien sûr des autres paraboles, il y en a beaucoup, beaucoup, dans ce livre, dans ce chapitre 13. Et évidemment, je les trouve extrêmement d'actualité aujourd'hui. Les temps sont courts pour moi. Ces paraboles de Matthieu 13 ont un contenu pour le temps de Jésus et pour notre temps. Comme les sept églises avec Jean dans l'Apocalypse ont un contenu pour l'époque là-bas et pour l'époque de maintenant. C'est à nous d'entendre avec le Saint-Esprit ce que Dieu me dit. C'est à nous d'entendre ce que Dieu parle à mon cœur et me dit. C'est à nous d'écouter et d'obéir au Saint-Esprit. Évidemment, chacun a son trajet personnel avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas dire que tout le monde doit faire la même chose. Tout le monde doit être de la même façon. Chacun est unique. Chaque chrétien est unique. Chacun trouve auprès de Dieu la parole, une lumière spéciale, mais elle doit être fidèle à l'enseignement de Jésus et au Saint-Esprit. Ça, c'est clair. La parole est toujours appropriée à chacun de nous, mais elle est toujours celle du Saint-Esprit. Ou alors, elle est celle du diable. Méfions-nous. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Père chéri, nous te remercions.